Tu t'appelles ?
Clémence.
Tu as quel âge ?
8 ans et demi.
Pourquoi t'es là aujourd'hui ? Pourquoi tu marches avec tous ces gens ?
Pour arrêter que la planète elle se réchauffe.
Et comment tu sais que la planète se réchauffe ?
Parce que mes parents ils m'ont dit.
Et t'es contente d'être là aujourd'hui ?
Oui.
L'ambiance c'est sympa, il y a plein de monde ?
Oui.
Bon bah merci.
Alors on a été contacté pour sécuriser la manifestation. Comme on a une grande expérience dans la sécurisation, là on revient justement d'Ukraine où on a fait un camp d'entraînement cet été. Donc voilà, on sécurise, on aide nos collègues. Et surtout on nous a demandé de sécuriser les 4x4 parce que en général c'est les premières cibles dans ce genre de manifestation. Donc voilà. Mais on est là incognito, hein. On est vraiment en infiltration.
Vous appelez comment ?
Moi je suis Sergent Moquette.
L'évolution climatique, ça me touche énormément et que même si je crois pas énormément forcément à toutes les solutions, je me dis au moins montrer qu'on est inquiet de ce qui se passe.
Vous êtes habitué à manifester, à mobiliser ? Vous n'êtes pas une militante ?
Pas du tout.
Vous vous considérez pas comme une militante ?
Non, sauf aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous a convaincu aujourd'hui de participer ?
C'est le ras-le-bol général de penser que tout le monde s'en fout, qu'on ferme les yeux. Dans les médias, on parle jamais finalement du réchauffement climatique. À chaque fois, on se dit c'est dans 200 ans, mais non, c'est dans pas longtemps.
Et l'enjeu, du coup, pour vous aujourd'hui, c'est quoi à travers cette action de marche ?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette vraiment des choses en place qui font qu'on produise de l'énergie sans polluer moins. Mais vraiment, quoi. Sans penser aux questions de fric ou de commerce ou de relations internationales.
C'est quoi ? C'est d'envoyer un message aux dirigeants politiques en étant le plus nombreux dans la rue ?
Oui,
c'est ça pour vous le sens de l'action ?
Ouais, c'est de montrer vraiment un événement mondial qui montre que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer.
Bonjour Barnabé.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de Canal Sud. On vient de t'entendre. Tu étais dans la manifestation de ce dimanche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était cette manifestation exactement ?
Alors, c'était une manifestation internationale organisée dans plus de 150 villes dans le monde qui visait assez simplement en fait, à mettre le plus de gens dans la rue pour adresser un message à l'intention des décideurs politiques qui sont réunis à partir d'aujourd'hui à New York dans le cadre du sommet des Nations Unies pour le climat.
Et donc à Paris, il y avait je crois près de 15 000 personnes environ, c'est ça ?
Ouais, voilà, ça c'est les chiffres qu'on estime être les plus justes à Reporter. La préfecture de police a donné 5 000 personnes dans la rue, ce qui est voilà, un mensonge assez honteux. Il y avait beaucoup plus de monde que ça. Et puis Havas, qui était une des principales organisations responsables de la coordination de cet événement, a jugé qu'il y en avait 25 000, ce qui là, pour le coup, est peut-être un peu exagéré. Donc on a coupé la poire en deux, comme on dit, et il y avait entre 10 000 et 15 000 personnes. On va dire un gros 10 000 ou un petit 15 000.
Et pourtant, il y a eu effectivement assez peu de relais de ce qui s'est passé là. Qui étaient les gens qui étaient dans la rue ce dimanche ?
Bah, c'est ce qui est intéressant, justement, c'est que c'était des gens qu'on n'a peut-être pas vraiment l'habitude de rencontrer dans des grandes manifestations écologiques de manière traditionnelle. Comme le reportage que tu viens de diffuser a pu le montrer, c'était beaucoup de familles, beaucoup de jeunes et surtout beaucoup de gens qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme militants. Ça m'a beaucoup frappé dans les toutes premières rencontres que j'ai pu faire, en tête, en milieu de cortège notamment. Les gens ne se revendiquaient pas comme militants quand on leur demandait. J'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'elles n'avaient quasiment jamais manifesté dans la rue, ou alors que ça faisait 10 ou 15 ans. Voilà, et c'est ce qui a donné cette tonalité aussi assez, festive et familiale, quoi. Il y avait une très bonne pêche, une très bonne ambiance, quelque chose de nouveau, quoi, en fait, qui se dégageait.
Toi, t'as déjà fait d'autres manifestations que de ce genre-là ?
De cette ampleur-là, non. Qu'on s'entende sur des sujets écologiques, bien sûr.
Oui, sur cette question-là, t'as jamais eu dans une manifestation de cette ampleur-là ?
Non, moi j'en ai pas le souvenir. Après, je suis comme toi, un jeune journaliste et j'ose espérer qu'on sera amené à en croiser beaucoup plus à l'avenir.
Oh, ben, y a des chances.
Mais non, clairement non.
Et du coup, dans les témoignages et dans l'article que tu as publié, tu relates une sorte de différence d'approche. Certaines personnes demandant, à disant, il faut tout le monde pour tout changer, on l'entendait, et demandant à dépolitiser un petit peu le débat en disant, il faut qu'on s'y mette tous pour sauver le climat. Un discours assez bienveillant, mais effectivement qui change un peu de discours habituel dans l'écologie politique.
Ouais. C'est en effet ce qui m'a interrogé tout au long de cette journée et que j'ai voulu peut-être transcrire un peu dans ce papier. C'est que c'est bien évidemment de pouvoir mettre dans la rue plusieurs milliers de personnes et notamment des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir s'exprimer sur le sujet. Moi j'interroge comment dire. C'est vraiment la solution de vouloir dépolitiser le débat. Je pense qu'il faut garder en tête que la question du réchauffement climatique est un enjeu éminemment politique et qui demande d'y apposer des grilles de lecture plutôt politiques. Que ça nécessite de lutter contre un certain nombre de lobbies. Je voulais mettre en balance, parce que je tiens quand même à préciser qu'évidemment, de l'autre côté, il y avait beaucoup d'organisations, enfin, il y avait même toutes les organisations traditionnelles, à savoir les associations d'environnement, les partis politiques, les syndicats.
Oui, il y a des leaders politiques.
Étaient présents, hein. Il faut pas oublier ça. Mais ils étaient plutôt en fin de cortège, et ils étaient donc plutôt moins visibles qu'à l'accoutumée.
D'accord, très bien. On a justement ce propos que tu cites de Pierre Larouturoux du parti Nouvelle Donne qui expliquait qu'il fallait agir en tenaille. C'est très bien qu'il y ait beaucoup de gens en dehors des ONG classiques, des partis, et c'est très bien que dans les hémicycles et parmi ceux qui font la loi, il y en ait qui portent cette urgence. Est-ce que tu sens que ces deux mouvements se mettent en cohérence ou c'est encore compliqué et c'est un peu chacun selon sa position ?
D'une certaine manière, ça c'est la suite qui va nous le révéler. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment d'assez grande défiance à l'égard du politique, des partis politiques, des hommes politiques et de manière générale de la politique, des politiques publiques qui sont prises. Est-ce que ça se met en cohérence? Oui, je crois que quand même les partis politiques, les institutionnels d'une certaine manière, gardent pour certains d'entre eux, pour ceux qui étaient présents en tout cas, parce qu'on peut aussi souligner que le Parti Socialiste par exemple n'était pas présent dans cette manifestation, je pense que ces groupes gardent une attache avec la société civile, suivent ce qui s'y passe. La société civile mobilisée, le vrai problème c'est les citoyens, les gens, c'est toujours compliqué de donner un nom à ce groupe-là, mais ces électeurs, finalement, qui, eux, se dégagent de la sphère politique, n'y croient plus, ne se mobilisent plus. Vous savez que le taux de syndicalisme en France est un niveau très très bas. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce contexte où la politique et donc l'engagement politique semble être au plus bas, qu'on arrive sur un sujet écologique, finalement, à apporter une autre image, un contrepoids, et à dire, là, pour une fois, sur un coup, un événement précis, on a réussi à mettre dans la rue plein de gens qui, eux-mêmes, assument le fait qu'ils y sont rarement et que c'est un engagement ponctuel. Donc voilà, l'enjeu, ça va être en effet la suite. On est à un an, je crois que tu en parleras un peu plus tard, on est à un an de la COP21, un peu plus d'un an de la COP21 à Paris. On va voir tout se construit comme
toujours.
Comme Alternativa dont on va parler après.
Ouais, justement, voilà, je voulais te lancer sur la suite. Et la suite, c'était le lendemain, donc c'était lundi, hier, où tu as eu une sorte de changement de décor un petit peu radical. Alors, donc, tu as eu une semaine assez riche, et lundi, c'était une manifestation de la Vélorution. Pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est ?
La Vélorution, c'est un mouvement né, je crois, dans les années 90 aux États-Unis, qui est arrivé au milieu des années 2000 en France, et qui est un mouvement de citoyens qui veulent promouvoir le vélo dans les transports en ville, et qui veulent dénoncer la place qu'occupent les véhicules motorisés dans les modes de transport urbain aujourd'hui. Donc voilà, c'est un mouvement écologiste assez intéressant, assez méconnu, mais qui est vraiment axé sur la question des transports en ville.
Et justement, donc hier, il y avait une manifestation de la Vélorution à Paris, et tu étais à cette manifestation. Et là, contrairement à l'ambiance Bon Enfant de dimanche, ça a été un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ?
Ouais, bien sûr. Pour préciser, ils ont plein de modalités d'action. Ils organisent des ateliers d'autoréparation. À Paris, ils ont monté une maison du vélo à côté de Bastille. Et je crois que c'est tous les vendredis du mois, mais ce sera à confirmer. Ils organisent ce qu'ils appellent la Vélorution, c'est-à-dire une grande sortie à vélo à travers les rues de Paris. Et l'idée, c'est d'être le plus nombreux à circuler dans les rues. Je crois que c'est le premier vendredi du mois de nuit et tous les samedis, enfin à vérifier. Et donc le gros événement, c'est ce qu'ils appellent la masse critique. Et c'est le 22 septembre, parce que le 22 septembre, avant, c'était la journée sans voiture. Maintenant, cette journée-là n'existe plus en tant que telle, elle a été remplacée et mise dans le cadre d'une semaine européenne de la mobilité. Et l'idée de la masse critique, c'est de prendre un point assez symbolique du trafic
de la voiture
automobile et de s'y engouffrer à plusieurs à vélo, de sorte que on ralentit automatiquement la circulation et le temps d'un quart d'heure, 20 minutes, on remplace un peu la prédominance des voitures par
des vélos,
par le règne des vélos, voilà. Et donc à Paris, ça se passe à la place de l'Étoile, qui est vraiment le lieu ultime
Des passages des bagnoles autour de l'Arc de Triomphe avec les Champs-Élysées, enfin voilà, c'est vraiment le nœud.
Exactement.
Quoi.
Et donc moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai même pu faire la comparaison, l'année dernière je l'avais déjà faite, l'année dernière c'était un dimanche soir, donc dimanche soir il y avait déjà un peu moins de trafic, et donc en effet l'action avait bien prise. Là on était à peu près le même nombre, à savoir une centaine, ce qui reste quand même relatif pour une masse critique, il faut aussi le dire. Et un lundi soir comme ça dans l'ouest parisien, dans les beaux quartiers, je vous fais pas un dessin, la voiture reste le premier moyen de transport, et donc ça a été très très difficile d'imposer un autre rythme, une autre allure, et de prendre un peu la mesure des voitures. Donc au bout de 10-15 tours de la place de l'Étoile, en fait on est tout de suite remis sur le haut des Champs en direction de la Concorde, puisque ça fait 10 ans que c'est le même trajet et que l'objectif, c'est de rejoindre le jardin des Tuileries. Voilà. L'ambiance, elle est bonne, hein, dans ce genre de mobilisation. Il faut vraiment bien le comprendre.
Mais ce qui a changé, c'est un peu l'attitude, notamment des forces de police, qui ont été beaucoup plus...
J'insistais pour dire que c'est vraiment un mouvement pacifique. À la limite, nous, on se met un peu en danger. C'est toujours un peu étonnant quand on pénètre le trafic. Mais c'est très bon enfant. Évidemment, il y a des automobilistes qui klaxonnent et qui râlent. Mais il n'y a pas de geste de violence, quoi. Et puis, et là, donc, en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été cueillis sur le dernier tiers du parcours, une fois le rond-point des Champs-Élysées franchi. Et là, il y avait tout simplement un cordon de fourgons de CRS qui bloquait la route. Ils étaient 8, je parle des fourgons, donc à raison de 5 ou 6 places.
Ça fait un par personne, quoi.
Vous calculez en termes de CRS, ils étaient une cinquantaine. Et nous, ça fait quasiment un CRS pour deux maigres vélos. Et donc là, en fait, pareil, sans violence, mais de manière très sournoise, ils nous ont tranquillement encerclés, parce qu'en fait, nous, on était dans une démarche assez... je dis nous, je parle des cyclistes.
Oui, t'étais avec eux en vélo, mais tu couvrais l'événement comme journaliste, quoi.
Exactement, ouais. Mais en fait, bon, il faut reconnaître que ça pose quelques questions, ce qui fait que par empathie, je me mets du côté des cyclistes, évidemment. Nous, on ne on a juste cherché à comprendre, donc on n'a pas cherché à fuir, nous on était à vélo, ils étaient à pied, enfin, en fait on est juste à mille lieues d'imaginer qu'ils vont tranquillement nous encercler et nous parquer dans une voie, l'avenue de Matignon d'ailleurs, tout un symbole, sur la droite du rond-point et nous faire comme ça, arrêter à ciel ouvert et nous faire attendre pendant une heure et demie, tout en prenant nos identités. En fait, c'est surréaliste, en fait.
C'est dur à réaliser, ouais.
Ouais, c'est ce qui explique, en fait, que ça s'est passé. C'est ça, le paradoxe que je voudrais souligner, c'est que... Bah, en fait, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas été une centaine à être comme ça parqués, parce qu'en fait, les gens... Il y a quand même eu un petit mouvement de panique, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez, on descend tranquillement les champs à vélo... on occupe une des deux voies et puis on se retrouve nez à nez avec des CRS et puis on les voit alignés face à nous et puis d'un coup ils déclenchent et ils se mettent à courir vers vous. Donc, là vous demandez un peu ce qui se passe parce que bon, on était inutile de préciser qu'on n'était pas armé, qu'on n'était pas belliqueux, qu'on était, voilà. Donc il y en a quelques-uns qui ont pris des échappées sur le côté, mais nous et puis moi en tant que journaliste, évidemment je reste pour me demander, enfin voilà, ce qui se passe et quelle est la raison de tout ça. Alors la raison officielle, pour quand même donner la parole à la force, aux forces de l'ordre, c'est, oui, que cette manifestation n'était pas déclarée officiellement et que comme certains des vélos brandissaient des banderoles, des petits drapeaux à l'arrière de leur vélo, et ben qui dit banderole dit manifestation, et qui dit manifestation dit déclaration au préalable, et si ça ne l'est pas, ça tombe sous le coup de la loi et donc on est arrêté.
Ça me rappelle un peu ce qui a été vécu par un autre collègue de reporter, décidément, à Albi. Alors c'est, pour une fois, c'était pas moi qui étais sur le TST, c'était Emmanuel Daniel, et qui a suivi une action d'occupation du conseil général du Tarn, une action qui a un peu échauffé les nerfs de quelques militants, et ça s'est un peu échauffé, et il a reçu, je crois, un coup de tête.
Je pense que ce qu'a vécu Emmanuel, c'est incomparablement pire, parce que là, il y a de la violence physique, que c'est explicite, encore plus explicite qu'il est journaliste. On est à un niveau de gravité, pour moi, largement supérieur. Ce qui s'est passé hier, moi, je le place sur le niveau du symbole. C'est-à-dire que quand on nous assène de discours autour de du problème du déficit public, de la réduction des fonctionnaires, de l'austérité ambiante, imaginez qu'on puisse placer 40 ou 50 fonctionnaires de police pour bloquer une manifestation de 20 minutes de vélo pacifiste un lundi soir à Paris, 22 septembre.
Ça pose question.
Vous voyez, c'est terriblement...
C'est absurde.
Terriblement déprimant, quoi.
Après, on parle de ta situation, de celui d'Emmanuel. Évidemment, moi, j'ai en mémoire aussi celle des zadistes au TST qui ont occupé et qui, effectivement, là, c'était encore un degré au-dessus parce qu'eux, ils n'étaient pas journalistes et eux, ils n'avaient rien pour se défendre, sinon leurs petits bras et leur non-violence, souvent. Et voilà, les tirs de flashball, les tirs de lacrymo, les tirs tendus, y compris dans la jambe, dans le bras, en visant les gens... des choses là graves, avec des blessures et des gens parfois à l'hôpital, comme cette personne qui a été piétinée alors qu'elle était enterrée. Mais dans tout ça, ce que j'ai l'impression, c'est que le mouvement pour la justice climatique, qu'on pourrait décrire comme des bobos écolos, plutôt avec un peu de sous et plutôt gentillets, eh bien, ce mouvement-là, qui paraît entre guillemets inoffensif, en fait, il dérange. Parce que si en face, la répression policière touche maintenant aussi les mouvements sociaux et écologistes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là.
Ouais, on est clairement, d'ailleurs, on est en plein dans le contexte législatif, puisqu'il y a une loi sur le terrorisme qui est en train d'être étudiée à l'Assemblée nationale. J'ai pas eu le temps de m'y pencher particulièrement, mais je sais qu'elle a quelques lignes autour de ces questions qu'on évoque, mais on est clairement dans un temps de répression accrue et toujours plus sévère à l'égard des manifestants et globalement des mouvements sociaux, et peut-être, je m'aventure peut-être un peu, donc je dis ça avec prudence, mais peut-être a fortiori encore plus sur les mouvements sociaux, écolo ou climatiques. Mais bon, je pense que de toute façon, les temps sont durs de manière générale, donc je ne veux pas jouer une carte par rapport à une autre, quoi.
Oui, c'est vrai que les salariés qui luttent dans leur boîte en prennent aussi pas mal dans la gueule. Et je voudrais évoquer un dernier point avec toi avant de passer la parole à notre cher rédacteur en chef. C'est que évoquer la question d'Alternatiba. Alors Alternatiba, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce mouvement né à Bayonne avec l'association Bichi, qui veut dire vie en basque, et qui en gros veut monter un mouvement qui unit à la fois les mobilisations concrètes locales, tout en se mobilisant pour la justice climatique au niveau global. Donc vraiment une sorte de nouveau souffle altermondialiste. Et donc il y avait eu 12 000 personnes en octobre dernier à Bayonne, et depuis l'idée SM, et SM notamment à côté de Paris, c'était à Gonesse, ça a eu lieu je crois la semaine dernière, et il y a eu Alternatiba Gonesse, donc, et tu as été faire un tour, et qu'est-ce que tu as pu constater là-bas?
La journée de samedi à Gonesse a été un peu compliquée différentes raisons. Gonesse est difficilement... Il y avait un agenda militant écolo particulièrement chargé sur ce week-end, et donc je pense que l'organisation d'Alternatiba Gonesse, qui en plus n'a peut-être pas été très très bonne d'un point de vue de communication, a souffert de cette multiplication. Il y avait le parking day, il y avait le festival La Voix Libre, il y en avait d'autres. Bref, en plus Gonesse est un peu loin, là c'est pas pour faire mon propos parisianiste, puisque moi j'y étais, mais il faut reconnaître que c'est difficilement accessible, il n'y avait pas d'organisation collective pour s'y rendre.
Donc ça n'a pas été un gros succès, quoi.
Bref.
Ah oui, il y avait tout pour que ça rate. Il y avait vraiment toutes les conditions réunies pour que ce soit pas réussi.
Pour que ce soit pas la plus franche des réussites, oui. C'est évident. Et c'est ajouté à ça que la journée qui commençait par une manifestation pédestre dans les rues de Gonesse pour rejoindre... Alors Gonesse, en deux mots quand même, pourquoi Gonesse? Gonesse, c'est un projet de centre commercial mené par Auchan qui veut y faire le plus grand centre commercial du monde, avec notamment des pistes de ski intérieur. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais c'est...
Europa City.
Voilà, et ça s'appelle Europa City, et c'est évidemment un grand projet inutile, destructeur de terres agricoles. Là, on est sur un bandeau de terrain où ça produit encore, et en Ile-de-France, on souffre particulièrement de la disparition des terres agricoles. Donc il y a beaucoup de symboles qui s'y jouent. Et la manifestation, il s'est trouvé qu'il y avait aussi des représentants et même des élus du Front National qui ont d'une certaine manière noyauté un peu et profité du cortège pour en faire partie et se revendiquer également dans la lutte contre ce projet, ce qui est évidemment inutile de le préciser, pas tout à fait la ligne que défendent Alternatiba, le grand mouvement Alternatiba. Donc tout ça a fait un contexte un peu compliqué sur Gonesse, mais voilà, Gonesse et Alternatiba Île-de-France, c'était une première étape, il y en aura d'autres. Ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est que il va y en avoir d'autres des Alternatiba, et comme tu l'as bien dit, ça grandit, ça a semé, et là on va bientôt cultiver les fruits. Il y a Alternatiba Nantes dès dimanche, il y a Alternatiba Lille le week-end prochain du 4 et 5 octobre, il y a Alternatiba Bordeaux qui promet d'être une grosse mobilisation. On attend beaucoup de monde à Bordeaux. Ce sera le week-end d'après, si je ne dis pas de bêtises, le 11-12 octobre. Et puis il y en a plein d'autres. Il y en a qui se préparent à Nancy, il y en a qui se préparent dans les dom-toms, il y en a un à La Réunion, je crois qu'il y en a un à Tahiti.
Et il y en aura un à Toulouse,
voilà, il y en a même au
printemps prochain.
Et en Suisse.
Ah oui, même à l'étranger, ça se développe.
Oui, en fait, le nom... Ce réseau, en fait, a pris le nom de coordination européenne des Alternatiba, pour bien montrer que ça s'ouvre, et puis il n'y a pas de limite. Voilà, je crois que ça réfléchit un peu partout en Europe sur cette idée qui est donc, en effet, de, comme tu l'as présenté, de créer des villages des alternatives. C'est ce que ça veut dire Alternatiba en basque. Village des alternatives. Et donc, ce qui est intéressant, et le parallèle qu'on peut y faire avec la marche pour le climat, c'est que là, on est dans une autre approche. On est vraiment dans une approche du faire, de l'alternative existante et de les valoriser. Et donc là où on peut peut-être reprocher à la marche pour le climat d'avoir reproduit un peu ce qu'on appelle dans le milieu le syndrome Copenhague, où en fait on met sur un temps très court, ponctuel, beaucoup de gens dans la rue, en se disant que c'est le meilleur moyen d'interpeller les décideurs politiques, et donc d'une certaine manière de renforcer cette façon de faire de la politique, de voir les choses qui est très... bottom-up, quoi, qui est très, vertical,
quoi. En fait, c'est vraiment, s'il vous plaît, décideurs, écoutez-nous.
Voilà, exactement. On se met nous-mêmes dans une position inférieure par rapport aux grands décideurs de ce monde. Je pense qu'on peut dire qu'Alternativa est vraiment dans un autre postulat, qui est celui plus de l'horizontalité, qui est plus celui d'organiser, de valoriser et de faire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'idée que ça existe déjà et qu'on les montre et qu'on les fédère, qu'on les mutualise. Alternativa, vous pouvez parler d'agriculture, vous pouvez parler d'énergie, vous pouvez parler de transport, vous pouvez parler d'alimentation, vous pouvez parler d'éducation. Enfin voilà, il y a vraiment un réseau très très intéressant de gens mobilisés, qui ont des idées, qui les mettent en œuvre et qui se regroupent dans ce mouvement d'Alternativa.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Barnabé, pour ta disponibilité.
Merci à toi, Grégoire, de l'invitation.
Je te propose d'écouter une chanson qui date de 1993, ça s'appelle Assassin, et ça s'appelle L'écologie, tout simplement, sur Canal Sud, 92.2, canalsud.net.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Encore raser des forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques, bon, au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale